Merci Tiffen, bon week-end.
La Compagnie des Poètes, par Manu Farine.
Éloge du lecteur avec Alberto Manguel et Michel Zinc, l'écrivain et le médiéviste. L'un remballe sa bibliothèque, l'autre déballe celle de son enfance. Autrement dit, l'un s'exerce à l'oubli, l'autre au souvenir.
Un livre qui veut durer, c'est un livre que l'on doit lire de plusieurs façons, non ? Ou en tout cas qui permet une lecture variable, une lecture changeante. Et pour les grands livres, alors chaque génération le lit d'une façon différente, non ? Ce n'est pas le cas de parler de la Bible, non, c'est trop évident. Mais c'est vrai, en même temps, évidemment.
Alberto Manguel, Michel Zinc, bonjour. Bienvenue à tous les deux. En tout bref préambule, c'est presque trop évident, la voix de Borges au micro de Georges Charbonnier sur France Culture, c'était en 1965. Lire, ce serait donc créer sans cesse des textes autres que ceux que nous lisons, Alberto Manguel ?
Tout à fait. On a voulu nous faire croire que la littérature est faite par les écrivains. Or, tout écrivain écrit une œuvre pour l'éternité, et les lecteurs, nous empêchons cette éternité et nous sauvons très peu de toute cette masse des livres écrits et des livres publiés. Donc, en quelque sorte, sans exagérer, je dirais que c'est le lecteur qui crée la littérature, qui décide ce qui reste, ce qui sera oublié, et de ce qui reste, ce que sera ce livre. Swift écrit Les Voyages de Gulliver croyant qu'il écrit une satire féroce de son époque, et nous, les lecteurs, nous avons mis son livre au rayon enfant. Donc, ce pouvoir du lecteur est formidable, et Borges a raison, comme toujours, quand il dit que la lecture change le livre.
Alors, on va évidemment en reparler, hein, puisqu'il s'agit d'une rencontre de lecteurs, en premier lieu, ici, Michel Zinc, médiéviste, philologue, académicien, écrivain, on vous doit même quelques romans policiers, je pense que c'est aussi un point commun entre vous. Dans la foulée d'un essai sur l'humiliation au Moyen-Âge, reparaît aujourd'hui un petit essai, écrit il y a 10 ans, maintenant, titré selon une formule définitive, donc, j'imagine, discutée ou discutable. Seuls les enfants savent lire, qui est un essai illustré hein, qui promène de vos premiers manuels de lecture suivis ou courantes aux premières lectures personnelles, où on découvrira notamment que l'enfant que vous étiez goûtait les récits de navigation, mais aussi Huckleberry Finn, La Comtesse de Ségur, les romans de Colette Vivier et par-dessus tout les contes, hein, ce qui pourrait d'ailleurs donner quelques clés quant au terrain de jeu et de lecture que vous vous êtes choisi, à savoir le Moyen-Âge. Toutes ces lectures sont ramenées à la surface du livre qui cherche au fond à retrouver la trace qu'ils ont laissée dans votre mémoire et font la démonstration peut-être un rien nostalgique de la profondeur intuitive de la lecture à hauteur d'enfant. De l'exercice de mémoire à celui d'oubli avec vous, Alberto Manguel, à qui l'on doit...
Non, pas l'oubli. Je remballe ma bibliothèque, mais je ne l'oublie pas.
J'ai pas dit que vous l'oubliez, mais que dans votre essai, vous écrivez cette phrase qui dit « c'est s'exercer à l'oubli ».
S'exercer à l'oubli, mais ne pas réussir. Borges encore disait que l'oubli est la meilleure forme de la vengeance. Mais je ne réussis pas à oublier ce qui est arrivé avec ma bibliothèque, ni les textes que j'aimais. Donc je me balade avec une bibliothèque en mémoire.
Car c'est bien de ça qu'il est question donc, dans ce texte, hein, ce récit, ce texte entrecoupé, entrelacé, faudrait-il plutôt dire, de digression, qui est le récit d'une perte, hein, certes provisoire, mais douloureuse, de votre bibliothèque, hein, la dernière, celle imaginée dans votre maison en France, au sud de la vallée de la Loire, avant que vous ne soyez contraint de la quitter en 2015 et de remballer donc, hein, dans les caisses, c'est 35 000 à peu près volume, qu'il a composé, qu'il la compose toujours. Et donc tout cela prend le titre, vous l'avez dit, de « Je remballe ma bibliothèque, élégie et quelques digressions » dont la traduction française paraît aujourd'hui aux éditions Actes Sud.
On entre dans une bibliothèque comme on entre dans une forêt. Des rangées de livres laissent l'impression d'un certain ordre, tout comme des rangées d'arbres, mais vous ne savez pas encore ce qu'est cet ordre. Quelqu'un a placé là des livres selon une certaine méthode, une méthode qui n'existe que dans sa tête. Une bibliothèque privée est donc une autobiographie de son lecteur, de ses goûts, ses préjugés, ses expériences, ses désirs.
Un tout petit extrait de la bande-annonce hein, de l'exposition, c'était la Bibliothèque la nuit, qui était une exposition adaptée de l'un de vos essais mis en scène par Robert Lepage. Donc c'était d'abord au Canada, puis c'est une exposition qui a été voyageuse, hein, qui est arrivée même jusqu'ici à la BNF. Une exposition toute d'expérience virtuelle de bibliothèque, à commencer par la vôtre, hein, celle à vous consacrer donc cet essai. Et je me demandais comment vous aviez, vous, vécu cette expérience-là, c'est-à-dire l'expérience de cette projection de ce fantôme de bibliothèque lors de cette exposition.
Justement, comme si j'étais en présence d'un fantôme. La bibliothèque avait été emballée, envoyée à un entrepôt à Montréal, et tout à coup, je la vois ressurgir dans la pièce de Robert Lepage. Donc c'était très douloureux. Ça me fait penser à la rencontre de aîné avec le fantôme de son père dans le royaume des morts. Et il sent la joie de le revoir, mais aussi la douleur de comprendre sa grande perte. C'était difficile, c'était douloureux, c'était émouvant.
Qu'est-ce qu'on y voyait finalement ?
On voyait la reconstruction de la bibliothèque, mais sans mes livres. Bon, ils avaient mis n'importe quel livre sur les étagères. Il y avait un choix de 3 livres qui m'étaient chers et qui avaient été reproduits pour cette exposition. Les 3 livres étaient un livre que je gardais de mon enfance, un conte de fées allemand avec de très belles illustrations. Le roman Marie Chapdelaine, dans la première édition, c'est un exemplaire que j'avais, qui avait appartenu à un magnat anglophone du Canada, et qui était lu, les pages étaient coupées jusqu'à la moitié. Donc pour moi, c'était symbolique de mon pays, le Canada, où ce rapport avec les anglophones et les francophones était ce qu'on a appelé les deux solitudes. Et troisièmement, Stocky & Company de Kipling, dans l'édition que Borges avait lue dans son adolescence. Et quand j'ai quitté l'Argentine pour la première fois en 69, il me l'a donné pour que moi, adolescent, je lise le même livre, dans le même exemplaire qu'il avait lu lui quand il était adolescent.
Ce livre que vous avez toujours avec vous, hein, lui, il n'est pas
oui.
Dans la caisse.
Oui, oui.
Dans les caisses.
Il y a très peu, peut-être une petite douzaine de livres que j'ai gardés qui ne sont pas dans les caisses parce que j'avais besoin qu'ils soient avec moi. Et parmi ces livres, ces 3, je les garde chez moi dans mon appartement à New York.
Alors, on visitait dans cette exposition d'autres bibliothèques hein, de façon virtuelle, dont celle d'Alexandrie, à laquelle vous consacrez en partie une des 10 digressions qui s'intercalent dans le récit de cette perte, hein, donc dans « Je remballe ma bibliothèque », qui est une digression qui est placée exactement au centre du livre, hein, puisque c'est la 5e digression. Qu'est-ce qu'un tel lieu, qui voulait hein, rassembler la totalité de la mémoire du monde méditerranéen, et dont on ne sait toujours pas vraiment ni comment elle est née, ni comment elle a disparu, qu'est-ce qu'elle vous permet de dire? J'allais dire de la vôtre, peut-être même de dire à la vôtre, hein, de bibliothèque. ou à sa perte, en tout cas.
Peut-être les deux symboles les plus évidents du monde occidental sont la tour de Babel et la bibliothèque d'Alexandrie. La tour de Babel dans l'espace, la bibliothèque d'Alexandrie dans le temps, et toutes les deux perdues. Et donc, je voulais parler d'Alexandrie parce que c'est le symbole de cette ambition de tout savoir. Toute bibliothèque est un peu le modèle d'Alexandrie parce que elle veut tout accumuler. Toute bibliothèque est ambitieuse et en même temps savoir que ça ne peut pas durer. Et si une bibliothèque aspire à une certaine immortalité, cette immortalité se trouve dans la mémoire de ses lecteurs qui changent ce texte qu'ils portent en eux et qui redevient de textes nouveaux pour les générations à venir. Donc il me semblait important de parler d'Alexandrie parce que je plaçais la perte de ma bibliothèque à l'ombre de la perte de la bibliothèque d'Alexandrie.
Alors on comprend très vite, Alberto Manguel, on comprend pas très bien l'organisation très secrète de votre bibliothèque.
Mais il n'y a pas d'organisation, justement, c'est des digressions parce que je ne suis pas capable
logique
saugrenue,
dites-vous.
Je ne suis pas capable de penser en ligne droite.
On suit néanmoins qu'il y a, par exemple, plus de Platon que d'Aristote, des centaines de polars, mais peu ou pas de romans d'espionnage, l'œuvre complète de Zola, mais pratiquement pas de Maupassant, quelques sections distinctes, alors l'histoire du livre, bien sûr, les commentaires bibliques, la légende de Faust, la littérature et la philosophie de la Renaissance, les études gays, les bestiaires médiévaux, et on suit effectivement cette grande bibliothèque comme étant la somme de toutes les bibliothèques passées, depuis votre enfance en Israël, en passant par Buenos Aires, et puis Londres, Toronto, Milan, enfin tout un tas d'endroits, Tahiti, et la France finalement qui viendra rassembler tout ça. Est-ce qu'installer une bibliothèque pour vous, dans chaque lieu, est-ce que c'est d'abord une façon de trouver sa place ?
Oui, c'est un peu comme font le chien de pisser dans les coins. Pour moi, c'est installer la bibliothèque. C'est la première chose que je fais. Je ne sais pas comment ça arrive, même si je décide volontairement de ne pas accumuler des livres. Les livres s'accumulent tout seuls et donc tout à coup, j'ai une bibliothèque. Et le long de ma vie, j'ai accumulé, laissé et quitté des bibliothèques. Et pour la première fois, quand je m'étais installé en France en 2000, je pus rassembler ce qui restait de ces plusieurs bibliothèques et créer une bibliothèque de tous ces brins de bibliothèques. Et je me sentais vraiment reconstruisant ma vie, écrivant mon autobiographie. Je reconnaissais des passages de ma vie partout. Et donc, quitter cette bibliothèque après 15 ans, ce fut beaucoup plus douloureux que quitter les autres. Parce que quitter les autres, je savais que c'était une perte partielle. Et cette fois, c'était une perte totale. C'est comme si on ne m'amputait pas un bras ou un pied, mais le corps entier.
Michel Zinc, vous comprenez cette position d'Alberto Manguel, mais en fait cette façon de décrire ce rapport à la bibliothèque qui est aussi un rapport de territoire, au fond.
Oui, je crois que nous l'éprouvons tous, même quand nous n'avons pas 35 000 volumes, et que le moment où nous devons nous séparer d'une partie de notre bibliothèque, ce qui arrive à tout le monde parce que les conditions de la vie changent, parce qu'on vieillit, parce qu'on est logé plus petitement, parce qu'on... que sais-je, eh bien c'est un moment où l'on se sent mutilé et où on a honte de se sentir mutilé. Parce qu'on dit, c'est à cela que je tenais tellement et qu'en ai-je fait ? Que retrouve-t-on de cette bibliothèque dans ce que j'ai dit et ce que j'ai écrit? Et tous ces livres, au moment où je les classe pour les choisir, je me dis ces livres qui ont tant compté pour moi. Il y a 30 ans, je n'imaginais pas me séparer d'eux. Et maintenant, ce ne sont pas les premiers que je retiens. Et puis réinstaller une bibliothèque alors que le temps se réduit et qu'il en reste si peu.
Vous qui dites, Alberto Manguel, que la bibliothèque, évidemment... explique qui vous êtes, ou en tout cas dit des choses de ces identités mouvantes qui vont se suivre les unes après les autres et qui ne cessent de se transformer au fil des ans. Et je me demandais ce que pouvait bien expliquer la bibliothèque de votre enfance, la toute première que vous citez d'ailleurs au début de l'essai en Israël, qui se trouve dans votre chambre, qui se trouve d'abord en hauteur et puis après au sol. Est-ce que vous vous souvenez de l'organisation secrète des arrangements et des réarrangements de cette première bibliothèque d'enfants?
Oui, j'ai appris à lire très jeune, j'avais 3-4 ans. Mais je me souviens des livres que j'avais. Bon, c'était pas des masses, mais j'avais peut-être 2 douzaines de livres. Et j'aimais les ranger par taille, d'abord, et ensuite par couleur. Et j'ai changé le rangement. Parfois, c'était par thème, je veux dire. Les romans, les livres illustrés, les tout petits contes des fées. Je me souviens que je faisais ce rangement avec un énorme plaisir. Ça m'a donné l'impression d'avoir non une, mais plusieurs bibliothèques.
Avec plaisir et parfois quand même avec une forme d'inquiétude aussi, parce que vous racontez comment certains objets, par exemple, ne pouvaient pas se trouver à tel ou tel endroit ou en face de tel livre et qu'au fond, il y a une...
Je suis très superstitieux, donc...
Vous l'êtes toujours.
Même maintenant, à ma table de travail, il faut que les crayons soient rangés d'une certaine façon, les gommes de ce côté-là, la statue de Ganesha du côté droit. Enfin, je suis très superstitieux et je sais que de choses terribles vont arriver si ce rangement change. Et enfin, je me tenais à ces règles secrètes que je composais moi, mais après, une fois composée la règle, je devais me tenir à cela.
Mais indépendamment de ce tempérament superstitieux, Alberto Manguel, il y a de toute façon, j'imagine, une superstition à classer la bibliothèque.
Sauf qu'il y a des grands lecteurs qui classaient leur bibliothèque d'une façon très aléatoire. Abby Warburg, le grand lecteur bibliothécaire du début du XXe siècle, classer ses livres par association, une association qui changeait tous les jours. Quand Casirer, le philosophe, est allé voir la bibliothèque de Warburg, au bout de 5 minutes, il a demandé qu'on lui laisse se retirer parce qu'il devenait fou. Il comprenait pas pourquoi le Conte de Grimm était à côté d'un livre sur Botticelli et le Botticelli à côté d'un livre de mathématiques, ainsi de suite. Mais ça s'est rangé dans le cerveau des lecteurs de Warburg de cette façon-là. Donc, il y a des ordres qui sont du désordre, qui correspondent au chaos de notre imagination. Et si on peut rester fidèle à ça, bon, pourquoi pas? Moi, j'ai besoin d'un ordre autre, soit alphabétique, soit thématique, soit de la taille des livres. Et comme ma bibliothèque est une bibliothèque privée, je n'ai pas besoin d'avoir des codes qui doivent être partagés avec les autres. Quand j'étais directeur de la Bibliothèque nationale en Argentine, c'était tout à fait une autre chose.
Oui. Vous qui dites que prêter un livre est une incitation au vol.
Tout à fait. Tout à fait. Je ne prête jamais mes livres. Je le donne ou je les achète pour d'autres. Mais quel sens y a-t-il à prêter ces livres? Les gens veulent garder les livres qu'ils lisent. Du moins, je le fais. C'est pour ça que ça m'est très difficile de lire dans une bibliothèque publique, parce qu'il faut que je rassemble toutes mes forces morales pour ne pas piquer le livre.
Alors, digression à mon tour, Alberto Manguel, parce que l'histoire est trop fabuleuse au sens de la fable. Vous racontez, je ne sais pas si elle est vraie, l'histoire de la bibliothèque, en tout cas d'une bibliothèque paternelle, lorsque vous quittez Israël et qu'une masse de livres sont rassemblés et reliés tous en cuir vert. pour faire bibliothèque à Buenos Aires, là où vous partez, et puis que les rayonnages de la bibliothèque s'avèrent trop petits. Je ne sais plus qui a l'idée, enfin quelqu'un, je crois que c'est la secrétaire. La secrétaire de votre père a l'idée de les couper, alors un peu une espèce d'effet de Procuste.
Elle a fait guillotiner les livres.
De façon à ce que les livres puissent s'ajuster à la taille des rayonnages. Et donc il se trouve, alors peut-être qu'il vous en restait dans votre bibliothèque, que vous avez lu certains de ces livres, escamotés de quelques-unes de leurs lignes. Et je me demandais, parce que la fable est vraiment trop belle, est-ce qu'il vous reste quelque chose de cette pratique-là, c'est-à-dire de la lecture, c'est-à-dire au fond l'idée d'une lecture qui serait quelque chose à compléter.
Mais toujours, je pense que vous partagez sûrement cet avis, que nous lisons certains textes de façon très précise, chaque mot, chaque phrase, mais il y a d'autres textes que sur lesquels nous glissons. Nous les lisons quand même, mais sans lire chaque phrase. Donc, dans la bibliothèque de mon père, il s'avérait que la première phrase de chaque page manquait, parfois deux, et donc on était obligé de compléter cela. Mais je pense que tout lecteur fait ça de toute façon. On lit en diagonale et on prend un certain sens du texte.
Michel Zinc ?
Oui, c'est la bonne source même d'un effet littéraire. Dans La Muse du département de Balzac, Bianchon et Lousteau sont chez cette maîtresse de maison de province, etc. Et ils la séduisent, et puis Lousteau la séduit vraiment, parce qu'ils reçoivent des épreuves qui sont enveloppées dans d'un autre livre qu'ils ne connaissent pas, qui est un roman de KPDP complètement idiot, et ils n'en lisent que des bouts, les feuilles qui ont servi à envelopper les épreuves, et ils reconstituent ce qu'il y a autour dans une conversation que cette société de province semble éblouissante, et qui lui paraît le summum de l'esprit parisien. Eh bien, effectivement, si on lit des livres dont il manque chaque fois les trois premières lignes du haut de la page, on peut travailler son esprit de la même façon. C'est un stimulant comme un autre, oui.
Tout à fait. Et il y a des livres qui s'améliorent avec cette lecture partielle.
Vous dites d'ailleurs, Alberto Manguel, que dans votre bibliothèque, vous conserviez aussi un certain nombre de mauvais livres,
oui,
au cas où vous en auriez besoin.
Oui, c'est-à-dire...
Au cas où vous auriez besoin de mauvais livres.
Tout livre qui rentre dans ma bibliothèque reste. Comme ça, il y a des mauvais livres qui sont rentrés, mais je les garde comme exemple de mauvais livres. Si je veux écrire un essai montrant qu'est-ce que je n'aime pas, il me faut cet exemple. J'ai un livre de Paolo Coelho, par exemple.
Je n'osais pas vous le demander.
Oui, mais je vous le dis.
Je vous remercie.
Parce que je l'utilise comme un exemple de très mauvaise littérature. Mais aussi des livres, par exemple, par erreur, un jour, un éditeur m'envoie deux volumes sur l'agriculture au Nigeria de 1870 à 1935. Mon compagnon me dit, mais tu vas pas garder ça, comment vas-tu utiliser ça? Eh bien, je lui dis, non, peut-être un jour j'en aurai besoin. Eh bien, le jour d'après, on me demande de faire la recension d'un roman nigérien qui traite de paysans à la campagne, et je peux citer dans la première phrase des statistiques sur l'agriculture du Nigeria.
Vous écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes, par Manu Farid.
Remballer sa bibliothèque, donc j'imagine que vous avez remballé ce livre-là également, Alberto Manguel.
Tout à fait.
Fait référence évidemment au fameux article de Walter Benjamin de 31, « Je déballe ma bibliothèque, une pratique de la collection ». Qu'est-ce qui, dans ce texte-là, important, faisait modèle pour vous ?
Je pense que la joie que Benjamin éprouve en ouvrant ses caisses et déballant sa bibliothèque. Quel est le sentiment contraire de la joie ? Je ne dirais pas que c'est ni la tristesse, ni la mélancolie, ni une certaine rage, mais toutes ces choses combinées que j'ai éprouvées en remballant ma bibliothèque. Sûrement, ça vous est arrivé quand vous avez changé d'endroit et vous remballez votre bibliothèque tout en sachant que vous allez la déballer.
Oui, c'est une joie, en effet. Et c'est la joie. Alors là aussi, enfin, vous me direz que j'ai un surmoi monstrueux, mais c'est Michel une Jean. Joie dont on a un peu honte, parce que c'est la joie de la possession.
Oui.
On met le livre dans un carton, on dit celui-là est sauvé.
Oui.
Celui-là, je vais le retrouver.
Ah. Oui, tout à fait. C'est sûrement ce que Noé a prouvé jusqu'à un certain point.
Voilà, oui.
Les animaux n'étaient pas à lui, mais je vais sauver ces deux, pas ces deux autres.
Mais, excusez-moi, mais pour les livres coupés qui me fascinent.
Moi aussi. Hein.
C'est une idée aussi si efficace. On a tellement, dans une bibliothèque avec des rayonnages de différentes hauteurs, c'est tellement difficile. Il y a un exemple dans ma discipline, ce sont les poèmes ou les textes du Moyen-Âge qu'on trouve mutilés parce qu'on les a utilisés pour relier d'autres manuscrits, et on a coupé. On a retrouvé, il y a 20 ans, un bout du roman de Tristan et Iseult de Thomas. D'un côté, il manquait le début des vers, et de l'autre côté, la fin. La fin, c'était facile à restituer à cause des rimes. Le début, c'était plus aléatoire.
Oui, c'est ça, quelque chose de merveilleux, mais qui montre, pour revenir à ce qu'on disait au début, la force du lecteur. C'est le lecteur qui reconstruit ce texte où l'écrivain manque, pas par sa faute.
Il y aurait donc éventuellement ce désir de tout lire ou ce désir de tout posséder, hein, j'en sais rien, j'imagine qu'il y a un petit peu des deux, et du même coup, ou par conséquent, une forme de mélancolie à cette pratique-là.
Oui, sauf que avec l'âge, ça change. Adolescent, je voulais tout lire et je voulais tout posséder. Maintenant, j'ai 71 ans, je veux relire. Je veux rester avec de vieux amis, je veux voir des choses que je connais déjà. Je ne veux pas être surpris par la nouveauté. Je veux la routine, je veux me promener dans mon monde livresque comme un aveugle qui reconnaît au toucher les différents coins, les différents meubles. Et donc cette soif de la nouveauté, je ne l'ai plus.
Alors vous dites que vous ne l'avez plus, mais quand vous parlez de ce rapport justement que vous avez à la surprise, vous en parlez aussi comme jeune lecteur, c'est-à-dire comme un jeune lecteur qui n'aimait pas particulièrement la surprise, hein, qui n'aimait pas particulièrement lire la surprise.
C'est vrai que jeune, j'aimais surtout les débuts des romans. Qui mettait le personnage chez soi, dans une situation agréable et commode, avant que l'aventure commence. Et je savais que, bon, souvent ça allait revenir à cette situation, mais peut-être parce que nous voyagions tellement, j'étais tellement nomade toute ma vie, que l'idée que les livres pouvaient me donner un chez moi m'était chère. Et donc, les aventures m'amusaient, mais j'aimais surtout le moment des calmes.
Vous dites, dans une des digressions, Alberto Manguel, donc vous revenez sur ce mythe, hein, sur ce lieu commun plutôt du malheur qui serait favorable à la création.
Oui.
Et je me demandais aussi ce que c'était, au fond, que d'écrire. Parce que vous dites, je ne peux travailler heureux que dans ma propre bibliothèque. Et ce que c'était ou ce que ça avait été d'écrire, par exemple, ce livre-là, sans elle. Hein.
J'ai fait une expérience, sans me comparer à Dante, bien sûr.
Qui est là tout le temps, hein, qui circule, enfin, comme toujours.
La chose qui m'étonne profondément, que devant ce chef-d'œuvre, peut-être l'œuvre littéraire la plus importante qui n'a jamais été écrite, qui est la Divine Comédie, enfin pour moi au moins, que cette œuvre a été écrite en exil, allant de, comme il dit, montant et descendant des escaliers qui n'étaient pas à lui, mangeant du pain avec du sel, parce qu'à Florence, il mangeait le pain sans sel, et sans ses livres, sans ses notes. Comment a pu-t-il faire ça? Est-ce qu'il avait toute sa bibliothèque dans sa tête? Il devait l'avoir. Mais c'est un miracle. Et moi, j'ai eu un peu la même expérience, dans un grade infiniment plus petit, de devoir travailler avec ce dont je me souvenais. Après, aller chercher les références. Mais je ne pouvais pas utiliser mes livres pour écrire ce livre.
Alors, rejoignant d'une certaine façon Borges, qu'on imaginait en tout cas entouré de milliers et de milliers de livres, ce qui n'était absolument pas le cas.
Non, Borges ne tenait pas à l'objet livre. Il aimait le texte, il avait une grande mémoire, donc il se souvenait de tout, mais il s'est débarrassé de ses livres. Mais il est devenu aveugle quand il avait à peu près 55-56 ans. Et jusqu'à ce moment-là, il pouvait aller au livre pour chercher ses références. À partir de ce moment-là, comme il le dit dans un poème célèbre, il éprouve l'ironie de Dieu qui lui donne en même temps les livres et la nuit, parce qu'on le nomme directeur de la Bibliothèque nationale au moment où il devient aveugle. Et à partir de ce moment-là, il décide qu'il ne va plus écrire de la prose. Il va continuer à composer des poèmes parce qu'il dit que les poèmes lui arrivent comme une musique à laquelle il ajoute des mots et donc il peut les dicter, mais que pour écrire de la prose, il a besoin de voir sa main écrire. Et donc il arrête d'écrire de la prose, il n'écrit plus d'essais, des récits. Jusqu'à 10 ans plus tard, aux environs de 65, donc je suppose que son imagination est tellement pleine d'histoires possibles à raconter qu'il décide de nouveau de se mettre à écrire de la prose.
Oh. Bonjour. Oh. T'es-je effrayé? Attends, ne t'enfuis pas. Je t'en prie.
Toi, mon rêve, écoute ma chanson. Un chant, je n'ai qu'un seul chant pour toi, oh mon amour. Un chant qui remplit mon cœur d'espoir, de bonheur.
La chanson du prince dans Blanche-Neige, le film d'animation de Disney, sorti en 1937. Et oui, elle a un lien, au moins avec le très jeune Michel Zinc. Hein, vous êtes en CE1, vous allez au cinéma, vous entendez ce « Pour toi, je te le proclame, je n'ai qu'un chant d'amour », que vous comprenez comme un chant d'amour, C-H-A-M-P.
Je fais une lecture.
Vous vous interrogez, absolument, sachant qu'à ce moment-là, vous vous débattez avec vos leçons de géographie et cette bizarrerie française qui a fait apprendre à des générations dont je suis tous les types d'enclos, de clôtures et de formes de champs que compte la France, de champs C-H-A-M-P-S. C'est l'un des souvenirs cueillis dans « Seuls les enfants savent lire » qui paraît aux belles lettres. Qu'est-ce qu'il faut en déduire, Michel Zinc? Que vous lisez moins bien que vous êtes resté enfant?
je suis resté enfant et je vis beaucoup dans mon enfance. Enfin, je ne m'en vante pas, hein, j'ai honte, mais c'est comme ça. Et en écoutant Alberto Manguel dire qu'il relisait maintenant et qu'il lisait enfant, j'étais frappé parce que pour moi, c'était le contraire. Enfant, je relisais énormément et c'est pourquoi je me souviens par cœur encore de passages entiers. Et maintenant, j'ai une sorte de hâte à découvrir des livres nouveaux. Mais je ne suis pas le seul dans ce cas, parce que Mauriac dit que Vigny, faisant ses visites académiques, avant pour être élu à l'Académie française, rendu visite à Bourg-Lormian, je crois, qui lui a dit « Oh, monsieur, je n'ai rien lu de vous, vous savez, à mon âge, on ne lit pas, on relit. » S'excusez comme ça. Et Mauriac dit « C'est un mot d'enfant et non pas de vieillard. » Bon, enfin, il y a au moins quelqu'un qui est comme moi. Mais donc, je relisais beaucoup. Mais sur le fond, pour savoir si je lisais bien, alors, le titre de mon petit livre, il faut bien donner un titre, le laisse entendre. Je reconnais ce qu'il y a de provocant et d'excessif dans la formule. Je crois qu'elle a quelque chose de juste tout de même. Parce que l'enfant a à la fois une sensibilité si vive, qui n'a pas encore été émoussée par le temps. Et en même temps, il vit dans un univers si étroit, généralement, sa famille, l'école, un tout petit monde, que tout ce qui lui arrive, tout ce qu'il éprouve, le marque considérablement, et en particulier tout ce qu'il lit. Et à cela s'ajoute autre chose. Après, il aura une lecture plus blasée, plus distanciée, naturellement, une fois adulte. Et il y a autre chose aussi, c'est que les enfants comprennent énormément de choses sans toujours comprendre qu'ils le comprennent, ou sans toujours savoir qu'ils le comprennent. Les enfants comprennent plus qu'ils ne comprennent. Essayez de cacher quelque chose à un enfant, vous aurez le plus grand mal à le faire. Et du coup, la lecture de l'enfant est à la fois très pénétrante et très innocente, si le mot a un sens. Blanchot dit quelque part que la lecture littéraire suppose une ignorance, ni un savoir que recouvre une immense ignorance. Eh bien, cette ignorance doublée d'un savoir qui s'ignore, c'est la lecture de l'enfant.
Vous écrivez, hein, « J'avais beau ne rien comprendre, je comprenais tout. C'est ainsi que les enfants lisent. Ils comprennent sans savoir qu'ils comprennent. Ils ont raison. Le lecteur doit accepter d'être dupe de ce qu'il lit et non jouer au plus malin. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Alberto Manguel?
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais j'ajouterais que, bon, c'est vrai que, enfant, je relisais beaucoup parce que je voulais sentir le confort de ces histoires que je connaissais. Mais l'enfant aussi ressent la liberté de changer le texte. L'enfant non seulement lit ce qu'il y a sur la page, mais saute de passage de description, en vente des scènes. Donc l'enfant est vraiment créateur dans sa lecture.
Ce récit de souvenirs, hein, d'une certaine façon, Michel Zinc, ça trace en même temps une petite histoire de la lecture aussi, hein, il faut bien le dire, hein, d'un enfant né à la Libération qui lit, alors on le comprend bien, précocement, les livres d'apprentissage, hein, puisque pour l'essentiel, ils sont hérités des grandes sœurs, avant même de rentrer à l'école. Les livres de lecture, à l'époque, s'appellent alors « La méthode en riant »,« Joie d'enfant », et puis viennent les premiers livres de lecture suivis, « Petite maman et ses trois enfants », »,« À l'ombre des ailes hein, », d'Ernest Perrochon, dont vous parlez énormément. Et je me demandais si vous vous souveniez de ce plaisir à les lire, c'est-à-dire à lire ces modèles de rédaction, ces dialogues au ton gourmet, dites-vous, à deux reprises, et justement de ce plaisir pervers à l'hypercorrection des dialogues.
Oui, enfin une perversité parce que je me rendais compte qu'on ne parle pas comme cela dans la vie et que au fond, un bon livre devrait être plus libre. Mais je comprenais qu'un livre qui était un livre de lecture suivi pour l'école adopta ce ton très convenable, ce français très correct. Je voyais la nécessité pédagogique et je me fais peut-être plus malin que j'étais, mais je ne crois pas. Elle m'amusait Et en même temps, j'y adhérais. Je trouvais, oui, que c'était très bien de faire comme ça. En même temps, il y avait des livres dont je ne sentais pas l'écriture trop endimanchée. Par exemple, tous les enfants de ma génération, et même plus tard, ont lu les Contes et Légendes chez Hachette. Hein. Et certains de ces volumes, les Contes de Hongrie, je sais pas quoi, les Contes de Finlande, qui étaient des adaptations du Kalevala, m'ont absolument ravi. Bon, vraiment beaucoup marqué. Quand je les ai relus plus tard, je me suis aperçu qu'ils étaient écrits d'une façon qui était vraiment pesante. Et un livre qui me ravissait, qui s'appelait « Contes roses de ma mère grand ». J'ai vu après que l'auteur avait écrit des contes rouges, des contes roses, des contes bleus, enfin bon. Et c'était écrit de façon, au fond, un peu grotesque. Ma grande sœur, mathématicienne, elle voyait ça très bien, elle ricanait. Mais moi, je trouvais ça enthousiasmant, puis tellement bien écrit, je trouvais ça très bien.
Alors ça, c'est ce qui est... Alors les contes, on va évidemment en reparler, Michel Zinck, parce qu'ils ont vraiment leur importance, hein, parce que c'est, au fond, c'est la lecture des contes qui va livrer une petite clé, enfin peut-être pas si petite que ça, en tout cas de votre vocation de médiéviste, mais je voudrais en revenir à ces lectures, d'abord ces lectures d'enfance, alors les lectures qui vont s'autonomiser, hein, donc c'est-à-dire les lectures lorsque vous commencez à lire seul, hein, lorsque vous commencez à préciser vos goûts, alors vous lisez certes des signes de piste, des romans d'aventure, avec un goût très 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 prononcé pour tout ce qui concerne la navigation, les bateaux, mais aussi et surtout la Comtesse de Ségur, et sa justice cruelle, ce qui est plutôt étonnant, les romans jeunesse de Colette Vivier et puis Huckleberry Finn, bien sûr. Alors, on imagine bien sûr qu'il y a le bonheur de la navigation sur le Mississippi, mais qu'est-ce qui ferait de ce roman-là, ce que vous décrivez comme étant l'un des plus grands romans du siècle, à hauteur d'enfant, j'imagine, mais aussi à hauteur d'adulte, hein. Qu'est-ce que vous en avez compris à l'époque?
C'est un très grand roman. Effectivement, pour un enfant, la séduction de cette vie sur un radeau au fil du Mississippi, mais c'est le bonheur absolu. Mais l'enfant comprend très bien aussi que c'est une sorte de... D'abord, c'est un piège, puisqu'en suivant le Mississippi, ils descendent vers les états d'esclavage, alors qu'il faudrait gagner les états abolitionnistes, puisqu'il accompagne le noir... l'esclave évadé qu'est Jim. Mais donc il y a à la fois cette séduction et ce danger, c'est ce qui rend le roman merveilleux pour un enfant, mais en même temps, un enfant comprend très bien aussi que c'est un roman profondément ironique, parce que là, Huck, qui est un petit sauvageon, qui fuit le monde civilisé, adhère à ses principes mauvais qu'on lui a inculqué, le respect de la propriété incluant le respect de l'esclavage, mais sa conscience lui fait des reproches, enfin il se dit mais je devrais dénoncer l'esclave, je vole la malheureuse Miss Watson, il s'est enfui, mais en même temps il ne le fait pas. Et il a une conscience vraie, une conscience juste, que sa conscience plaqué, dénonce, mais qu'il suit finalement. Huck ne se rend pas compte que la toute petite éducation qu'il a reçue, il a été un tout petit peu à l'école, etc., il sait lire, lui donne à ses yeux une supériorité immense sur Jim, qui n'est qu'un nègre superstitieux, etc., mais que Jim raisonne beaucoup mieux que lui. Oui. Et cette sorte d'ambiguïté de la morale, et cette sorte d'optimisme d'une morale profonde qui est la bonne, on a beau avoir toutes les édifices qu'on veut, quand on est en face de quelqu'un, on n'y fait pas de mal et on l'aide, eh bien, c'est quelque chose qui est profond, qui est émouvant, qui est formateur pour un enfant, mais qui fait que c'est un roman pour tout le monde, et c'est un roman d'adulte aussi bien.
En revanche, vous dites n'être jamais devenu un lecteur adulte de la Comtesse de Ségur, dont les histoires, elles, sont des histoires destinées effectivement aux enfants. Qu'est-ce que l'enfant y a trouvé là? Alors, je passe toutes les critiques qu'on a pu faire à la Comtesse de Ségur, notamment dans la question des rapports de classe et puis la cruauté de la justice avec les châtiments les plus sophistiqués. En quoi son univers pouvait être si proche de vous pour que vous la lisiez encore en cagne?
Oui, en cagne, je l'utilisais parce que les positions politiques de la Comtesse de Ségur sont extrêmement intéressantes, parce qu'elles sont parfois un peu contradictoires, parce qu'une partie de sa famille, enfin ses enfants, étaient légitimistes, le fils prêtre était ultramontain, son gendre était bonapartiste, enfin il était maire de Toulouse sous le Second Empire, et elle tire un peu de tout ça. Mais ça, En Cagne, je m'en suis aperçu. Quand j'étais petit, je ne m'en apercevais pas. Je ne veux pas me lancer. Quand on me met sur la comtesse de Ségur, on ne peut pas m'arrêter. Mais ce que j'y trouvais, et j'avais raison de l'y trouver, c'est que sa peinture du monde enfantin est extrêmement exacte. Elle comprend très bien les enfants et elle les peint, les fait parler avec beaucoup de justesse. C'est sensible quand ils sont à l'intérieur du même monde, par exemple dans les vacances, ce petit monde des enfants aristocratiques entre eux. Quand elle fait se confronter les enfants du peuple et les enfants de sa classe, à ce moment-là, le paternalisme ressort tellement que ça devient insupportable. Et enfin, bon, c'est pauvre Blaise, Jean qui grogne, Jean qui rit. Enfin, il y a vraiment des aspects déplaisants que je voyais sans les voir. Il y a aussi que la comtesse de Ségur, avec tous ses préjugés de classe, avec ce qu'elle est, elle était ce qu'elle était, on peut pas reprocher à une dame, fille du général Rostopchine, mariée en France au comte de Ségur, d'avoir des idées qui ne soient pas un peu venues de son milieu. Mais ce qui me frappait enfant, c'est que, étant de ce milieu, elle était amenée à une générosité, mais réelle, qui venait d'une foi qui était également réelle. Oui. C'est-à-dire qu'elle prenait au sérieux l'idée que les hommes sont frères, et ça la conduisait à des considérations qui sont pas du tout les considérations qu'on pourrait attendre de son milieu. Et tout cela, ça me frappait. Finalement, plus que le reste, et quand ma mère s'inquiétait, elle me disait, tu sais, si tu avais vécu au temps de la comtesse de Ségur, tu aurais été le petit garçon du jardinier et pas le petit garçon du château, parce que ça l'ennuyait un petit peu de voir ma passion pour la comtesse de Ségur. Bon, ben, je le savais bien, naturellement, évidemment, que j'appartenais pas à ce milieu, que j'aurais été le petit garçon du jardinier, j'aurais été pauvre Blaise, mais n'empêche que je lisais la comtesse avec le plus grand plaisir.
Alors ça, ce sont les premiers livres les premiers livres que vous lisez, que vous choisissez en tout cas de lire. Et puis vont venir en même temps ces premiers livres qui ont un attrait autre que celui des péripéties qu'il raconte. Hein. Donc, je pense par exemple à Henri Bosco, à L'enfant et la rivière. Et puis, au final, alors ça c'est qui ont une place un petit peu à part, on en a parlé déjà un petit peu au début, évidemment, c'est la grande place que prennent les contes. Au conte, dites-vous, je devais la conscience douloureuse et aiguë que la vie est pauvre au regard de la littérature. Ces contes qui sont liés à vos lectures et qui sont liés aussi à la voix de votre mère et à la voix de votre père, c'est-à-dire à la voix de votre mère que vous reliez à La Belle et la Bête, hein, qu'elle vous lisait en particulier, et puis votre père que vous reliez au conte de Grimm, qu'il vous disait en les traduisant simultanément, puisque lui, il était né de langue allemande, donc en Alsace, enfin à l'époque où ça faisait encore partie de l'Empire allemand. Et donc lui, vous les lit en traduisant simultanément. Est-ce que vous vous souvenez de cette voix, de la façon dont il a pu vous transmettre et vous lire ses contes? Parce que ça livre quand même une petite clé aussi de ce qui va suivre
pour
vous. Oui,
j'entends sa voix parfaitement. La façon dont il lisait l'allemand aussi, parce que souvent il me lisait la phrase pour lui-même et pour moi, parce que quand il me les traduisait, je ne savais pas l'allemand. Mais ensuite, il y a eu un continuum. Et puis, la façon dont il parlait d'une voix assez lente, puisqu'il traduisait, mais sans hésitation, et puis il lisait la phrase. Et pour moi, c'était lié à la poésie, en fait, parce que il avait cette voix un petit peu chantante et cette façon réciter la poésie allemande, quelquefois ses propres poèmes, puisqu'il composait des poèmes en dialecte alsacien. Et c'est une voix que je reproduis quelquefois moi-même en lisant du français, cette façon dans une langue où il y a, quand le vers est court, il y a deux accentuations, ou un vers long, chaque hémistiche a deux accents, quelle que soit la
longueur
du vers. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind.
Das ist der Vater mit seinem Kind.
Mit seinem Kind. Et le, eh bien, le, c'est, le, il y a, on le sent à deux émissions avec chaque fois deux accents. Et c'est comme en vieil allemand, dans, si on lit, je sais pas, le Hildebrandslied, enfin, c'est comme ça. Enfin, bref, c'est sans intérêt. Mais enfin, pour dire qu'il y avait un accent, particulier, qui me frappait, que j'associais, à mon père, qui me faisait, aimer, particulièrement, c'est qu'on, enfin, j'ai Zorès aimé de toute façon, et voilà, j'étais très sot, sans doute.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Mais non, mais lorsque je disais, voilà, ces contes qui montraient comme la vie est décevante, c'est une façon trop belle, trop pompeuse de dire simplement que j'allais me promener dans la forêt et je savais que je rencontrerais pas de fées. Et j'essayais quand même, je me disais, ben, pas une fée, mais peut-être qu'au prochain tournant, il se passera quelque chose. Alors j'allais au prochain tournant, et puis le chemin continuait dans la forêt, et puis au suivant, etc. Et au lieu de chercher vraiment des champignons et d'en trouver, comme faisaient mes grandes sœurs, etc., je me perdais comme ça à la recherche de ce que je ne trouverais jamais, tandis que des champignons, j'aurais pu en trouver.
Mais c'est bien Alberto moins Munger. Intéressant un champignon qu'une fée ou une aventure.
Ben voilà, c'est la supériorité de la littérature quand même. C'est pas super que ça.
Alors, qui nous mènerait tout doucement, lentement, mais sûrement, vers votre terrain de jeu, au fond, qui est aussi une façon de se rapprocher de ces sources-là, hein, d'avoir choisi le Moyen-Âge.
Oui, d'avoir choisi le Moyen-Âge.
Ou être choisi, ou je ne sais pas comment.
Là, alors, oui, je le dois parce que, à l'idée, qui était l'idée du romantisme, mais qui, à mon avis, est vraie, hein, qu'il y a un continuum du Moyen-Âge aux chansons populaires et aux contes populaires, ou qu'il y a au moins les mêmes sources, enfin bon, quelle que soit la façon dont on le décrive et dont on l'analyse. Et donc, j'avais l'impression qu'en remontant à partir de ces chansons et de ces contes que j'aimais tant, en suivant leurs traces, j'arriverais au Moyen-Âge. Et ce qui était à la fois, alors, mes collègues médiévistes trouvent ça horrible d'être un médiéviste romantique, n'est-ce pas, donc je serais tout à fait condamné, mais il y a tout de même quelque chose là-dedans, et comme mon père justement était non seulement de la langue maternelle germanique, mais était germaniste de profession, et lui aimait cette littérature romantique, cette poésie romantique allemande, et moi aussi, j'ai baigné là-dedans, et finalement, presque avant de lire les vrais poèmes du Moyen-Âge, j'ai lu Heine ou Land, ou j'ai lu les contes d'E.T.A. Hoffmann, ou les contes de Tieck, et j'étais entraîné comme cela. Je me suis retrouvé au Moyen-Âge parce que bon, c'était avant, c'était sérieux, et puis c'était pas plus sérieux, puis j'étais très bien, je suis resté.
Si on en revient juste pour terminer à cette petite provocation, donc à cette phrase « Seuls les enfants savent lire », c'est bien qu'à un moment donné, en tout cas dans votre essai, vous en terminez avec cette connaissance-là, c'est-à-dire de savoir lire. Donc il y a bien un moment où ça s'arrête. Et dans votre essai, ça s'arrête, curieusement, ça s'arrête par la poésie. Au fond, c'est la poésie qui donnerait son coup d'arrêt. Je raccourcis peut-être
pas directement. Non. Ce qui donne son coup d'arrêt, pour moi, le grand drame de l'enfance, c'est l'adolescence. Et c'est la puberté. Il y a une sorte de perfection vers 12 ans où on a une intelligence intelligence à mesure, chacun a celle qu'il peut, hein, bon. Une intelligence qu'il ne dépassera pas et il, en même temps, une lucidité qui disparaît dans les tourbillons et les troubles et le malheur, d'une certaine façon, de l'adolescence. Mais la poésie, je l'aimais et je la pratiquais, j'en écrivais avant même d'être adolescent. Et c'est en fait dans le...
À l'âge de 6 ans même.
Oui, même avant. Mais alors, comme un petit singe savant, une de mes grandes sœurs me lisait des passages de l'Iliade et de l'Odyssée, j'écrivais, enfin, c'était bon, lamentable, mais c'était vraiment le, à la fois le petit héritier et le petit sage savant. Hein. Mais, et ensuite, bon, j'ai aimé la poésie avec passion, j'en ai écrit mais pendant des années, j'en ai publié, j'en ai... mais en même temps, pour moi, c'est lié à cette perte de l'enfance, et ce n'est pas ce à quoi je repense aujourd'hui le plus volontiers.
Vous terminez pourtant sur le poète Jean Froissart, hein, le poète de la fin du XIVe siècle, dont vous reproduisez même un extrait, en tout cas de l'Espinette amoureuse. Qu'est-ce qui, dans ce poème-là, pourrait, au fond, presque livrer la clé de cet essai ou de cette éloge ou admiration rétrospective de l'enfant lecteur?
Eh bien, exactement ce que je viens de dire. Froissart est surtout connu pour ses immenses chroniques,
pour ses chroniques.
Mais c'est aussi un grand poète. Et dans le poème auquel vous faites allusion, dont je parle un petit peu, l'Épinette amoureuse, c'est il raconte l'histoire d'une éducation sentimentale, comment il rencontre une jeune fille, et il lui prête un livre, justement, et dans ce livre, il a glissé un poème pour elle, elle lui rend, sans parler du poème, le poème il y a toujours, je ne sais pas s'il a ouvert si elle a ouvert le livre, si elle a été pas grand, etc. Puis ensuite, toutes les indécisions de se demander si on est aimé, pas aimé, les souffrances de la jalousie, etc. L'indécision permanente de savoir si l'on est aimé. Et l'idée qu'au fond, on ne doit pas l'être. À la fin du poème, elle passe à côté du... Elle était fâchée, puis elle passe, elle lui tire les cheveux. Enfin, pas les miens, maintenant. Hein. Et alors, il se demande si c'est un petit geste de brutalité érotique, comme dans le donjon de Molière. Enfin, il ne connaissait pas le donjon de Molière. Hein. Regarde la grosse Thomas, comme elle est assautée du jeune Robin, toujours lui faire cactus ou à lui flanquer quelques torgnoles, etc. Donc, c'est petit. Bon, il se demande si c'est ça ou un geste d'agressivité. Alors, il choisit le petit jeûne érotique, le lecteur a plus de doutes. Mais, au début de ce poème qui a plusieurs milliers de vers, là, il commence par raconter son enfance. Il énumère peut-être 300 jeux d'enfants. De sorte, c'est une source pour les historiens prodigieuse. Là. Et il raconte comme il était heureux à l'époque et comment il fréquentait les petites filles naturellement, comme c'était bien. Là. De sorte que ce que l'on tire, c'est justement cette perfection de l'enfance et que l'amour, on profite, on jouit, comme dirait mon voisin, de l'amour avant d'en jouir vraiment. On connaît l'amour avant de savoir ce que c'est. Et ensuite, on a le reste de la vie pour en souffrir.
Que la préscience de l'amour, ce serait
voilà,
mieux que
oui,
l'amour.
Exactement, oui. Et alors, là, je cite ce passage que je cite tout le temps, où il raconte comment à l'école, il faisait des cadeaux aux petites filles, puis elle était contente, et il trouvait que quand il en faisait des cadeaux et que elle lui en était reconnaissante, eh bien, il dit c'est un grand mérite d'acquérir leur bonheur. Je pensais que c'était un grand mérite d'acquérir leur bonne grâce, et c'est vrai, c'est un grand mérite, je ne le dis pas autrement.
Voilà. Alberto Minguel, Michel Zinc, c'est la fin de cette émission, ou presque, hein, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Alors, bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
Merci.
Merci beaucoup.
On lui laisse faire le travail.
Oui, c'est ça. Voilà, oui. C'est... Oui, on a l'impression d'être sur le divan.
Vous occupant de Froissart, vous êtes allé vers la poésie médiévale italienne ou allemande ou espagnole?
Alors, je me suis occupé de la poésie espagnol et galicienne surtout, parce que j'ai travaillé sur la poésie non courtoise, hein,
mais, oui.
Et donc sur les cantigas d'amigo, etc.
Cantigas
d'amigo. Et puis, je me suis beaucoup intéressé aux troubadours de Languedoc,
oui.
Et donc à l'Italie, naturellement,
oui,
puisque beaucoup étaient italiens, que les manuscrits sont copiés en Italie, et que ce que leur doit Dante. Je suis tout à fait de votre avis, que La Divine Comédie est peut-être le plus grand livre qui a jamais été écrit. En tout cas, c'est le plus grand poète.
Comment il a réussi à faire ce poème? C'est incroyable. Tout est parfait, tout colle bien, tout est imaginé du début jusqu'à la fin.
Oui, mais là, et c'est un poème. Alors, on le lit avec des tonnes de notes. C'est-à-dire qu'il y a des allusions partout à des tas de gens. Et si on ne on lit pas les notes, on en profite tout autant.
Beaucoup. Oui, tout à fait. Tout à fait.
La compagnie des poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Aujourd'hui, Tahar Bouklifa à la technique, Thierry Beauchamp à la préparation et François Connac à la réalisation. Vous trouverez toutes les actualités d'Alberto Manguel et Michel Zinc sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction. Mais tout de suite, c'est l'heure de la méthode scientifique par Nicolas Martin.